trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florent Martinet est avec nous, le directeur de la gestion de Trecento Asset Management. Bonsoir Florent.
Bonsoir Grégoire.
Pierre-Alexis Dumont nous accompagne également, directeur des investissements de Sycomore Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis.
Bonsoir Grégoire.
Et Aymeric Didet à nos côtés. Enfin, Aymeric, bonsoir.
Bonsoir Grégoire.
Vous êtes directeur de la gestion de Pergam. Merci d'être là, messieurs. Ravi de vous retrouver tous les trois. Oh, vous avez tous une bonne connaissance en profondeur du tissu des entreprises qui font les marchés boursiers. Vous êtes des stock pickers, comme on dit. Aymeric, qu'est-ce qui vous intéresse à ce stade dans la séquence de publication de résultats et ou de chiffres d'activité qu'on a pu avoir jusqu'à présent? Et dans quelle mesure les entreprises nous renseignent sur des sujets un peu plus macro, que ce soit ce qui se passe en Chine, la santé du consommateur en Europe et aux États-Unis, ou encore l'idée du cycle d'investissement qui a été quand même un thème très porteur pour les marchés boursiers notamment.
Ce qui a été assez marquant dans cette série de publications, pour le moment en tout cas, c'est que finalement la macro a bien joué son rôle dans la micro. C'est-à-dire, pour une fois, on voit que quand on est positionné sur une zone géographique dont la macroéconomie ralentit, par exemple la Chine, évidemment, les chiffres n'ont pas été bons. Quand on est aux États-Unis, on a plutôt tendance à avoir des bonnes publications, même si le taux est un tout petit peu plus faible que d'habitude, puisqu'il n'y a que 75% de surprises positives, alors que historiquement, c'est plutôt 77-78%. Donc, on est un tout petit peu en dessous des taux de publication, de bonnes publications, mais ça reste quand même excellent. Et en Europe, toujours aussi mitigé, on voit bien que l'Europe est dans une situation assez morose et est toujours engluée quelque part dans cette absence de croissance forte, à l'exception évidemment de quelques valeurs. Et c'est ça qui en fait l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui on retrouve un petit peu plus d'intérêt dans le stock picking parce qu'on a des valeurs qui se distinguent. On l'a vu avec SAP par exemple en Allemagne, on a vu l'opposé avec la confirmation malheureusement que le luxe était à la traîne en France particulièrement. Et tout ça donne un peu plus d'intérêt pour l'investisseur, pour aller chercher finalement les histoires, les belles histoires sur lesquelles on pense qu'il y a une tendance qui va perdurer ou des retournements qui peuvent exister.
C'est toujours un moment important quand même, ces trimestres de publication.
Ça anime les marchés.
Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on regarde les indices boursiers, mais les techniciens vous diraient que les indices boursiers sont assez neutres au final. Alors qu'en revanche, chaque journée de publication apporte son lot de mouvements à la hausse ou à la baisse, parfois très marqués, sur des valeurs spécifiques.
Tout à fait, il y a beaucoup d'arguments pour investir sur les indices, mais il y en a autant pour ne pas investir sur les indices. Aujourd'hui, quand on regarde le S&P 500, aujourd'hui il est à plus 20 par exemple, et on a 125 valeurs qui perdent de l'argent même sur 125 500. Et finalement la performance est faite par quelques valeurs. Bon, le quart de la performance, il y a les trois quarts qui peuvent être faits aussi par d'autres valeurs, donc ça apporte de l'intérêt toujours pour le stock picking, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde les indices, la volatilité est faible finalement sur les indices. On a eu peu d'accidents cette année, peu de volatilité, d'épisodes de volatilité. Donc pour l'investisseur qui cherche finalement un rendement sans trop de prise de risque et ne voulant pas faire un petit peu l'extra mile, de faire mieux que l'indice, finalement c'est une solution qui existe aussi et qu'il ne faut pas attaquer en frontal aujourd'hui quand on voit nos clients.
Pierre-Alexis, c'est quoi les surprises là, de cette première partie de saison de publication pour vous, quand vous regardez, alors, que ce soit des secteurs de consommation, des secteurs industriels ou autres, ou est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des surprises peut-être?
Alors, je pense qu'on s'inscrit un peu dans la même dynamique que le dernier trimestre, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une saison de publication qui va inverser à la fois la dynamique de faible croissance qu'on a en Europe, qui va entraîner qu'on va peu à peu arriver quasiment à 0% de croissance en 2024. On s'y dirige à...
Sur les bénéfices, le quatrième trimestre, c'est à peu près ce qu'on attend, c'est ça?
On va
finir l'année autour de zéro, quoi.
Aujourd'hui, les prévisions voient plus 1,8, mais comme on perd à peu près 2% par trimestre, on devrait arriver autour de zéro.
On commençait à plus 10 et on va finir à zéro.
Je vous rappelle, 2010-2020, on a fait 0% de croissance pendant 3 ou 4 ans. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inversion. Par contre, en effet, Donc c'est relativement calme. La surface de l'eau est plane. Par contre, en dessous, il y a une chasse de thon. Ouais. Hein, c'est-à-dire que c'est très.
Ça secoue, ça remue, quoi.
Les publications d'ASML, voilà. Donc il y a des surprises quand même à tous les points de vue, que ce soit sur des usual suspects qui ont eu tendance historiquement à avoir des publications un petit peu erratiques. On parle de Philips aujourd'hui. Hein, c'est pas la première fois mais sur même des sociétés qui étaient les fameux granolas européens,
LVMH,
voilà, sur lesquels
une des boîtes les plus suivies au monde, je veux dire, le consensus était à côté de la plaque par rapport à ce qui a été publié.
Et donc derrière ça, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Un, en effet, que le stock picking est clé, c'est-à-dire que on a gommé les cycles, donc on a un cycle qui est relativement faible, et donc ce qui veut dire que au final, ben, les indices, ils sont suffisamment diversifiés pour que les bonnes nouvelles compensent les mauvaises nouvelles. Ouais. Mais par contre, en effet, vous avez vraiment des surprises avec on était dans un scénario avant où c'était toujours les mêmes qui surprenaient positivement et toujours les mêmes qui surprenaient négativement. Là, on n'est plus du tout dans ce phénomène-là. On a en effet un certain nombre de sociétés et de segments qui sont en difficulté. Le luxe, hein, c'est sectoriel. LVMH se débrouille bien, mais reste que voilà, vous avez un segment qui va moins bien. Même L'Oréal, qui était sur un segment où il avait surperformé énormément, voilà, ils sont passés de 10% de croissance en début d'année à 3,5% cette année. Donc on a vraiment un phénomène de décroissance lente. Par contre, vous avez encore soit des secteurs qui continuent à très bien résister, voilà. Soit des secteurs qui commencent à rebondir, soit vous avez des histoires de stock picking. On regarde, c'est très intéressant. Il y a un phénomène un peu de winner takes all. Regardez dans le phénomène de l'automobile, ou alors là c'est le retour de Renault face à Peugeot. Donc tout ça tourne et on a vraiment une capacité à être dans un environnement où il ne faut pas rester sur ses acquis.
Et ces moments de renversement là que vous décrivez, oui. Ils sont justifiés. C'est normal que Renault aujourd'hui fasse mieux que Stellantis, alors que Stellantis écrasait tout le monde il y a encore 6 ou 9 mois, notamment sur le plan boursier. C'est normal qu'Adidas fasse mieux que Nike aujourd'hui. C'est normal que Publicis fasse mieux que WPP aujourd'hui, etc. etc.
C'est très intéressant parce que alors, derrière ces différences, vous avez en fait des choses qui sont très différentes. C'est-à-dire que Publicis, son génie, c'est d'avoir fait du numérique aux US, ça le sauve. WPP l'a pas fait. Donc il y a eu un certain nombre.
Mais ça, on parle d'il y a 10 ans. C'est les choix de Maurice Lévy il y a 10 ou 10 ans. Je me souviens que déjà à l'époque, on commentait le mouvement vers le digital.
Il y a 5 ans, on disait.
D'accord.
Il a fait des acquisitions très chères et ça donne rien. Et finalement, il avait raison.
Ouais. Voilà.
Ce qui veut dire tout simplement que les options stratégiques que vous prenez aujourd'hui, en général, ce que vous disent les stratégies d'entreprise,
bien sûr.
Souvent, il faut à peu près une dizaine d'années pour savoir si oui ou non.
C'est bon ou pas.
C'est bon.
Ça a été le bon choix.
Donc là, vous avez un certain nombre de choses qui sont derrière. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez par exemple un SAP Dassault Systèmes. Bon, bah, vous avez eu deux options stratégiques. Un Meditata, pour l'instant, qui ne délivre pas chez Dassault Systèmes. SAP, le passage au cloud, qui lui a coûté très très cher très longtemps, qui commence à délivrer. Donc voilà. Donc derrière, vous avez soit du
Mais il y a du rationnel. Ce n'est pas le marché change comme ça, dame, parce que la mode change, etc.
Soit à l'inverse, des segments qui sont moins attractifs qu'avant parce qu'ils se retournent, parce qu'ils résistent moins bien. Voilà. Et Renault, c'est plus en effet un retour de l'enfer. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment.
Non. Oui.
Un cycle produit qui font qu'aujourd'hui, ils sont like for like positif sur le.
Pas de warning encore chez Renault.
Pas de warning et like for like positif sur l'industrie automobile, ce qui est quand même relativement rare dans le secteur.
Unilever, Nestlé. Enfin, Nestlé, il n'y a plus d'écoute historique chez Nestlé. Unilever a publié, je crois, la semaine dernière. Bon, c'est
l'investissement émergent en Inde.
Voilà, c'est ça. Florent, sur ces histoires d'entreprise, ce qu'elles nous apprennent aussi du contexte actuel. Moi, je veux bien qu'on parle un peu spécifiquement de la Chine, du consommateur américain. Le message sur la Chine, il appartient au troisième trimestre, donc je ne sais pas s'il est forcément très positif, mais bon, voilà, est-ce qu'il y a quand même des éléments que les entreprises nous apportent qui permettent de renseigner un peu le champ macro aussi, quoi.
Là-dessus, je vais prendre un exemple hyper précis, parce que la semaine dernière, moi, une publication que j'ai trouvée hyper surprenante, c'est L'Oréal versus Reckitt Benckiser.
Ouais.
C'était le même jour. Alors le discours sur la Chine, ils sont complètement
diamétralement opposés. Ah ouais.
C'est-à-dire que L'Oréal, bon, vous le savez, c'est 6% de décroissance sur la Chine, moins 10 sur le luxe, moins 30 à certaines, dans certaines provinces chinoises, notamment le Saint-Tropez chinois fait moins 30, je crois.
Ouais.
Et Reckitt, le même jour, le CEO vous dit notre business en Chine est florissant.
Alors faire... c'est plus des produits ménagers Reckitt,
oui,
enfin, c'est très large.
Personal care,
mais
disons.
C'est du personal
c'est,
care.
C'est cet ensemble de personal care. Et il dit on va faire une croissance à deux chiffres. Le même jour, il y avait Electrolux contre Whirlpool. Il y en a une qui fait plus 15, ça le fait moins 12. Donc, Emmerich l'a dit, hein, je pense que ça s'explique par des expositions géographiques différentes, peut-être des marchés finaux différents. Mais je crois qu'en sous-jacent, il y a des politiques de prix qui sont peut-être meilleures chez certains acteurs que d'autres. Il y a des capacités à mieux toucher le consommateur final, à mieux le cibler. Il y a de l'innovation qui se fait. Je pense qu'il y a de la qualité de gestion opérationnelle également. Et je crois que l'intelligence artificielle, dans tout ça, n'est pas complètement étrangère. Je vais prendre l'exemple de Walmart. Alors, c'est ça que Walmart a déposé 3000 brevets d'IA depuis 3 ans.
Oh, je savais pas.
Pour donner un ordre de comparaison, Amazon en a déposé 9000. Amazon, c'est une entreprise technologique.
C'est son business.
Hein,
oui.
Chez Walmart, en fait, dans les magasins, ils ont mis des caméras qui sont capables en fait, de repérer dans les rayons les produits qui manquent. Donc les réassorts se font très très vite. Les employés ont un espèce de ChatGPT à eux qui s'appelle Ask Sam, qui leur permet de trouver l'info hyper rapidement. Il y a la réalité augmentée pour les clients, c'est-à-dire qu'ils peuvent essayer leurs habits sur une tablette. Donc ils ont beaucoup moins de retours de produits clients qu'auparavant. C'est un endroit où ils passaient un temps fou, les employés de Walmart. Et puis il y a toute cette thématique d'entrepôt 2.0, avec la gestion optimisée des stocks, le tri des commandes automatisées.
Et ça, ça finit par faire la différence.
Et quand je regarde face à un Target... Ben, un Target n'a pas pris ce virage aussi vite et ça se retrouve dans la bottom line. La productivité de Walmart a explosé.
Ouais.
Donc, moi, je pense qu'il y a... Effectivement, il y a des aspects géographiques, il y a des aspects très spécifiques. Mais moi, ce qui m'a marqué sur cette saison-là, c'est que j'ai l'impression que les entreprises qui ont pris le virage de l'IA très vite, c'est un des marqueurs de différence.
Ah ouais. D'autant que j'imagine que le levier du pricing power s'est un peu réduit pour...
Tout à fait, voilà.
Il y a eu la marée montante du pricing power qui a embarqué un peu tout le monde, même des constructeurs automobiles qui ne pensaient pas un jour pouvoir augmenter leur prix.
Ouais.
Et là, la mer est un peu redescendue. Et donc, on voit effectivement ceux pour qui les stratégies, comme vous disiez, d'aller toucher le consommateur final sont les plus pertinentes aujourd'hui.
Les outils de Meta, par exemple, pour extrêmement bien cibler les nouveaux clients, les attraper, les rendre fidèles, les fidéliser, etc.
Et donc, Reckitt, Benckiser, ils disent que tout n'est pas perdu avec le consommateur chinois, alors.
Ben non, pour eux, ça se passe plutôt bien parce qu'ils ont cette innovation produit, ils arrivent à toucher plus de consommateurs, enfin, ça se passe plutôt bien pour eux. Et c'est vrai que le comparatif avec L'Oréal, le même jour, c'était vraiment impressionnant.
Pierre-Alexis ?
Non, mais derrière tout ça, ce qui est sûr, c'est que vous avez quand même beaucoup moins de dynamique. Parce que avant, vous aviez des secteurs qui emmenaient toutes les valeurs.
Oui.
Ce qui est des... Voilà. Là, je trouve que, à part quelques secteurs qui sont... Voilà, le secteur automobile est quand même très compliqué. Donc, voilà, vouloir investir sur le secteur... Mais sinon, vous avez la capacité de trouver des valeurs qui font exception dans quasiment tous les secteurs.
Ouais. Ouais.
Et pour plusieurs... Souvent pour des dynamiques propres.
Ouais.
Souvent parce qu'ils sont sur le bon endroit, sur la bonne géographie.
Bon positionnement,
sur le bon segment,
bonne stratégie.
Voilà.
Ouais, donc c'est la dispersion intrasectorielle là, dont on parle.
Il y a 5 ans, était dans une situation très difficile.
Ouais, ouais.
A dû aussi se réinventer. En général, vous avez le cycle des affaires et des sociétés qui se réinventent en permanence. Il y en a qui savent très bien le faire. Et à long terme, ce sont les sociétés gagnantes. Il y en a qui ont plus de mal à le faire et souvent qui s'enferment dans des stratégies perdantes.
Une fois qu'on a dit ça, comment vous abordez la question du 5 novembre dans vos métiers, Emmerich? Non, mais j'ose même plus poser de questions particulières, j'en sais rien. Trump, Harris, je crois qu'on a tous regardé les valeurs, les secteurs, le niveau d'inflation. Enfin, je crois qu'on est tous prêts pour le 5 novembre de ce point de vue-là. Maintenant, ça reste encore à venir, quoi.
Alors, techniquement, après, on dit toujours en bourse que quand on enlève une incertitude, ça permet aussi au marché de se libérer.
Première incertitude. l'incertitude de savoir est-ce qu'on aura les résultats le 5 novembre au soir.
Ça aussi, parce que comme les...
La première incertitude à lever, j'ai l'impression.
Sont très serrées. Ouais. En effet, ça peut être un sujet.
Notre correspondant américain, juste petite parenthèse, sur la période 2000, Al Gore, c'est 2000, hein, en Floride, où on recompte les voix. Alors, je ne sais plus, j'ai plus le calendrier en tête. Ça dure quand même quelques jours ou une paire de semaines. Le S&P perd peut-être 7-10% pendant l'intervalle. Cette incertitude avait pesé, de non-résultats avait pesé sur le marché.
Tout à fait. Incertitude, baisse des marchés, c'est une chose
qui fonctionne. Ça fonctionne à peu près.
Sur pas mal de sujets sur les marchés. Par contre, une fois qu'on sait, on a plutôt tendance à penser qu'un Trump est favorisé aujourd'hui par les marchés financiers. Maintenant, est-ce que ça va être suivi d'effet ou pas ? Évidemment, ça va être un Trump 2. C'est pas le même que le Trump 1. Ça, c'est la première chose. Il n'est pas du tout dans le même environnement économique.
Non, c'est ça aussi, oui.
Ça n'a rien à voir. Lui, il rêvait d'inflation. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que refaire beaucoup d'inflation, ça soit faisable et souhaitable, très clairement. Mais par contre, moi, j'ai plutôt tendance à dire, la seule chose, c'est qu'on sait un petit peu, on connaît un petit peu mieux le personnage. Donc, on aura plus de facilité à l'appréhender et à appréhender ses réactions. Et puis, moi, j'ai un peu l'impression que la géopolitique a besoin d'un leadership important et que Trump peut incarner ce leadership là où Kamala Harris a un peu moins présente ou a un peu moins montré de leadership sur la scène internationale. Donc, c'est en ça que le marché a un tout petit peu plus la faveur pour Donald Trump. Maintenant,
Trump pourrait amener une réduction du risque géopolitique.
Oui. Et donc, baisse de la prime de risque par rapport à ça. Donc, c'est ça qui peut être intéressant par rapport à l'élection américaine.
Maintenant, et on voit, ça peut compter, la baisse de la prime de risque géopolitique. Là, je vois le pétrole aujourd'hui. Sur une non-escalade ou une spéculation d'une non-escalade supplémentaire au Moyen-Orient, c'est moins 6% sur les cours du pétrole. Hein. Tout le monde se demandait quelle était la taille de la prime de risque géopolitique. Ben voilà, on l'a.
C'est pour ça. La prime de risque, vu la géopolitique qu'on a partout dans le monde, aujourd'hui, elle est assez élevée. Donc, d'avoir un tout petit peu plus de charisme au niveau. Du gendarme historique
de poids,
du monde, ça peut aider les marchés. Maintenant, bien malin celui qui va pouvoir prévoir ce que va donner l'élection, premièrement, et deux, les deux programmes des candidats sont quand même pas vraiment favorables au marché financier, parce qu'on parle de plus de taxes, soit pour les entreprises, soit pour les ménages. Donc, dans une économie qui est avec un déficit abyssal, où les Américains, bon, ils ont...
Alors, plus de taxes d'un côté ou moins de taxes de l'autre, mais en tout cas, plus de déficit à l'arrivée.
Plus de déficit à l'arrivée. D'accord. Un déficit qui est juste hallucinant. C'est le seul pays, quand même, qui a compris que, pour le moment, le déficit est infini. La dette est infinie et qui peut faire tout ce qu'ils veulent sans que personne ne leur dise rien. Donc pour le moment, ça les a portés, puisque le niveau de vie des Américains, il est quand même à un niveau plus élevé qu'il y a 10 ans. Donc, la réalité, c'est que ça a marché pour le moment.
La reprise post-Covid la plus rapide de toutes les économies développées.
Incroyable. Mais en faisant de la dette. Donc, il y a un moment donné où, en plus, avec des taux aussi élevés, ça coûte un petit peu cher, la dette. Donc, c'est pour ça que nous, on est plutôt à penser que le scénario de la Réserve fédérale, quel que soit le candidat, va être poussé pour de la baisse de taux, notamment à cause de la charge de la dette, qui, à un moment donné, coûte extrêmement cher aux Américains.
D'accord.
Donc voilà, l'élection américaine, oui, c'est un énorme sujet, mais les résultats et ce qui va être mis en place après, ça va être plus déterminant quelque part que finalement le résultat en lui-même. On ne sait pas comment le marché va réagir. Tout ce qu'on sait, c'est que enlever l'incertitude, c'est une bonne chose pour les marchés.
Pierre-Alexis, est-ce que Trump peut abîmer l'exceptionnalisme américain ou en tout cas l'entamer encore un peu plus ? Aujourd'hui, les États-Unis peuvent... J'avais regardé un calcul d'économiste qui montrait l'exceptionnalisme américain. Alors, c'est le dollar, les porte-avions, etc. Mais c'est la capacité pour les États-Unis d'assumer peut-être jusqu'à 20% de ratio dette sur PIB supplémentaire par rapport aux autres pays sans stigmatisation. Voilà, ça donne un ordre d'idée de ce que ça peut apporter comme bénéfice.
Non, mais je pense que là on touche l'un des risques majeurs pour les États-Unis, mais pour beaucoup, beaucoup d'économies développées, qui est le passage d'une expansion fiscale à plus de normalisation fiscale pour donner gage au marché financier de la soutenabilité à moyen terme des plans de croissance.
Ouais.
Voilà. Des plans de croissance et des déficits publics. Voilà. Donc ça, c'est un risque qu'a les États-Unis, qu'a l'Europe.
Ça n'a pas été un gros sujet de la présidentielle américaine, le déficit.
Ce n'est pas du tout un...
C'est pas très vendeur, je peux le comprendre.
Ce n'est pas,
mais
ce n'est pas du tout un sujet, et ça n'a pas été non plus un sujet en Europe, hein, je tiens à le dire, voilà. Donc, ça, comme toujours, hein, les marchés financiers vont se rappeler au souvenir des politiques, c'est-à-dire qu'ils vont le faire par la hausse des taux, hein,
ouais,
et puis à un moment, ça va commencer à coûter cher, très cher, très 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 cher, et puis là... vous êtes obligé de faire quelque chose, voilà. Mais voilà.
Mais sous Trump, on voit des nouveaux sommets sur le 10 ans américain arriver assez vite, ou est-ce que c'est déjà intégré? On est revenu à 4,30, hein. 4,30, 4,70 au premier trimestre, et puis après, c'était 5% en octobre dernier, quoi.
Les scénarios à la Liz Truss, c'est difficile à voir aux États-Unis. Voilà.
D'accord.
Tout d'un coup, il y a une prise de panique.
Le codé sudden stop,
après,
ça se bloque,
voilà.
D'accord.
Après, force est de constater quand même que la détention de dette américaine par un certain nombre de gros investisseurs a tendance à baisser, que dans un contexte de géopolitique qui se tend, il n'y a pas de raison que ces gros investisseurs qu'on reviennent sur le marché, etc. Donc, c'est quand même un sujet d'offre. Sincèrement, le scénario d'offre-demande entre les émissions de dette américaine et la demande résiduelle des investisseurs, dans un contexte en plus de guerre commerciale,
oui, oui.
Où il n'y a aucune raison que la zone euro s'amuse à acheter toute la dette américaine.
Oui, non.
Voilà. Donc,
d'autant que le trésor américain s'est bien gardé d'aller mettre trop loin sur la courbe. Ils ont plutôt privilégié le court. Il faudra sans doute rallonger un peu les émissions à un moment. On aura d'ailleurs le nouveau programme du trésor, je crois, au cours de la semaine, hein, sur le prochain programme d'émission, etc.
Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans la situation du Japon qui a 100% de dette sur pied.
Non.
Ça pose pas de problème parce que c'est eux qui les détiennent. Donc, là, et qui sont en plus exportateurs nets de capitaux, etc. Donc attention, voilà, c'est un risque que l'on a aux États-Unis, en Europe. Voilà. Alors après, comment aborder ce phénomène? Voilà, moi je le dis souvent, hein, c'est-à-dire que les risques politiques, il faut les intégrer dans son portefeuille. Par contre, savoir ce qui va se passer et savoir comment les marchés vont réagir par rapport à ce qui va se passer, sincèrement, vous avez quoi vous perdre énormément d'opportunités. Donc il faut rester, à mon avis, sur ce que vous savez faire, c'est-à-dire plutôt la sélection de titres. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on diversifie aujourd'hui.
Ah, voilà. C'est ça.
C'est-à-dire que
la clé,
nous,
c'est
on considère que la Trump Trade est quand même bien dans les cours américains, que je suis tout à fait d'accord. Là, aujourd'hui, les investisseurs se sont placés dans une dynamique Trump. Voilà. Donc, voilà, comme c'est dans les cours, il n'y a plus grand-chose, sans doute, à extraire.
Ah, ouais. C'est pas la même surprise qu'en 2016. Non. Ce serait pas la même surprise qu'en 2016.
En
2016, les futurs s'effondrent avant que le marché reparte très fort derrière le jour de l'élection.
Donc, une diversification et en effet, pas arriver toute voile dehors le jour de l'élection, voilà, parce que vous pouvez avoir des surprises. On peut avoir des phénomènes d'incertitude pendant plusieurs jours, voire des meutes. Voilà, qui serait, à mon avis, assez négatif pour...
Ambiance très différente de 2016, hein,
voilà,
de ce point de vue-là.
Voilà, donc a priori, nous, on aborde ça en voulant plutôt réduire le risque sur cette partie.
Ouais. Florent, Trump et les marchés.
Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Non, après, voilà, c'est une équation qui a trop d'inconnus.
Est-ce qu'il y a des secteurs quand même où on se dit une politique ou une administration Trump versus une administration Harris, on sait que sur le plan sectoriel, on sait que c'est pas les mêmes histoires.
Il y a l'énergie, la finance, la santé.
Bah, la santé que vous connaissez bien, ça m'intéresse. C'est un faux débat.
Cette année, en fait, ça n'a pas été dans le débat.
Oui.
Ça a été complètement mis de côté du débat. Et voilà, je vous l'ai dit pas mal de fois sur ce plateau, mais si Trump est élu, c'est plutôt positif santé, parce que c'est de la dérégulation. Si c'est Kamala Harris, elle va poursuivre ce qu'a fait Joe Biden. Donc c'est quelque chose qui
n'est pas une rupture non plus. C'est pas une rupture non plus.
Donc c'est vrai que ça a été. Mais encore une fois, je rejoins Pierre-Alexis Emmerich, c'est-à-dire que vous pouvez faire tous les scénarios que vous voulez, prévoir la réaction du marché le jour J. Moi, je me rappelle de 2016, j'avais 26 ans à l'époque, j'ai rien compris à ce qui s'est passé.
moi, j'étais à New York à Times Square, je peux vous dire, personne ne comprenait grand-chose non plus. Non, mais la légende veut même que Trump lui-même était surpris. C'est-à-dire que c'est Melania Trump, la légende veut qu'elle était tellement surprise que son mari soit élu qu'elle était en pleurs, effectivement, avant d'arriver à la Maison-Blanche. Parce que c'était pas prévu, visiblement, dans le programme de Melania Trump, la suite des 4 ans à la Maison-Blanche.
Mais et voilà, Valourec si prenait 20% ouais, ouais, sur la... Oui, bah oui, oui, oui.
Donc non, mais après, ouais. Si je prends un peu de recul sur l'économie américaine, enfin sur ces élections, et si on regarde un peu plus loin, moi, je constate que, un, l'économie américaine, elle reste solide. Et l'histoire récente, quand même, nous a prouvé que les entreprises ont une capacité d'adaptation qui est absolument extraordinaire. Donc, quel que soit le candidat, je veux dire, des entreprises qui ont vécu le Covid, le choc des chaînes d'approvisionnement, le conflit en Ukraine, etc.
Mais ça veut dire,
ça va swinger un petit peu, mais elles s'adapteront.
Si Trump relance le fossile, c'est pas pour ça que les GAFAM arrêteront de privilégier de l'énergie propre et l'électricité potentiellement issue du nucléaire pour alimenter leur data center. La transition, elle se fait comme ça aussi, quoi.
Bah oui, les GAFAM voient après Trump. Voilà,
c'est... Ouais.
Donc voilà, à court terme, ça peut bouger. Maintenant, moi, ce que j'ai compris de Powell depuis Jackson Hole, c'est que, en fait, il a analysé ce choc inflationniste comme un choc d'offres et il vous dit aujourd'hui, c'est terminé. Et on est sur quelqu'un qui est redevenu pro-croissance, qui privilégie son moyen de croissance plutôt que l'inflation. Donc dans ce cadre-là, c'est difficile d'être très pessimiste à moyen terme. Sur le court terme, voilà, il va y avoir un peu de mouvement. Et alors, si je pousse le bouchon un peu plus loin, si l'inflation se maintient sur ces niveaux-là, enfin même réaccélère un tout petit peu, et qu'on a quand même des baisses de taux, ça c'est home run pour les equity. Hein. C'est le scénario idéal.
C'est le sweet spot.
Voilà. Donc c'est assez difficile d'être très pessimiste. À court terme, oui. Il y aura de la volatilité. Il faut regarder un peu plus loin que l'électron.
Faire ici.
Oui, il y a un facteur peut-être qui peut être différent des autres élections, c'est ces histoires de nomination. Oui, il risque de changer beaucoup, beaucoup de monde.
Oui.
Et donc ça, attention, voilà, c'est ce qui s'y rajoute, en mon avis, au phénomène de volatilité. Ouais. Donc un peu de questionnement sur la force des institutions américaines, sur qu'est-ce que devient la Fed post-Powell, si Powell est sort.
Dernière nouvelle, je crois qu'il avait dit qu'il n'avait pas forcément envie de le virer, quoi.
Oui, il l'a dit. Oui, mais
il
a dit qu'il voulait le virer.
Ouais.
Le problème, c'est qu'on
ne
sait pas.
On ne sait plus.
On ne sait pas. Donc voilà, je pense que c'est ça.
Mais oui, oui. Mais dans les administrations, important aussi. Moi, je me souviens, le premier mandat, le temps qu'il avait fallu pour Trump de mettre en place à chaque fois le renouvellement des personnes à la tête des administrations, etc., ça avait pris énormément de temps. Hein. Donc on verra cette fois s'il est mieux préparé de ce point de vue-là.
Le fameux état profond.
Ben oui, oui, oui. Mais j'ai cru comprendre là aussi dans ses discours, mais il y a déjà quelques temps, que pour le coup. Sur ce point-là, il s'était beaucoup mieux préparé qu'en 2016.
Puis il y a toujours une grande incertitude sur qui aura la Chambre, qui aura le Sénat.
Oui, alors ça, le Congrès, effectivement.
Il y a pléthore de scénarios. Hein.
De ce que je comprends, c'est qu'une victoire de Trump à la présidentielle, c'est quand même une probabilité supérieure d'avoir le clean sweep, c'est-à-dire vraiment la vague
c'est
qui emporte également.
Quand même.
Ouais. Le clean sweep démocrate est très peu probable.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Ouais. À l'inverse, le clean sweep démocrate est très peu probable, même en cas, évidemment, de victoire d'Harris. Ouais.
Ce qui est inquiétant, c'est que quand on regarde un peu les gérants et les allocataires d'actifs, tout le monde a un peu ce scénario de baisser les allocations juste avant l'élection, et pourtant le marché continue à monter.
Ouais.
Et c'est
bien vu.
Qui est génial.
Bien vu,
c'est là où aujourd'hui on sent que le marché a envie de voir aussi un petit peu plus loin, en effet, que ces élections. Qui vont apporter cette volatilité? Oui, peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, pour le moment, on reste quand même dans un scénario global où, oui, on favorise la croissance. Les banques centrales sont en train de favoriser la croissance aux États-Unis. Et parce qu'aujourd'hui, il y a un peu un gagnant, et puis après, il y a pas mal de grands perdants à côté. On a une Europe qui est toujours très faible et qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, et une Chine qui aujourd'hui était une économie alternative, quelque part forte et puissante, qui va à coups de mesurette pour essayer de redynamiser son économie. Ils n'ont pas du tout les mêmes notions de temps que les Américains, qui veulent tout dans l'instantanéité la plus totale, là où les Chinois, ils ont une génération pour faire les changements qu'ils souhaitent.
Donc, ce qui se passe en Chine, vous ne l'analysez pas comme un game changer immédiat qui redonne une place à la Chine différente, en tout cas sur le plan de l'investissement, que ce qu'elle a eu depuis quelques années, quoi.
Non, malheureusement, la Chine, elle prend des mesures au fur et à mesure, parce qu'elle a le temps. Elle adresse les problèmes là où ils sont les plus importants, qui étaient tout ce qui touchait
à l'immobilier, faire quand même.
La promotion immobilière. Ensuite, ils s'attaqueront à la suite. Ils ont commencé par la base. Ils ont repris en main leur population. Ça a été post-Covid. Ils ont enfermé, ils les ont pressurisés.
Oui, oui.
Et ils ont repris en main, ils leur ont enlevé les jeux vidéo, ils leur ont enlevé beaucoup de choses, beaucoup de liberté quelque part, et du libéralisme dans lequel ils avaient été depuis plus de 20 ans, où c'était open bar, toutes les marques, et maintenant, c'est une honte de consommer des grandes marques, maintenant quasiment pour certains en Chine. Donc, c'est ce que nous expliquent en tout cas certaines sociétés du luxe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine, elle reprend brique après brique, mais avec un temps, une échelle de temps qui est très différente de celle des Américains.
Donc vous dites qu'il ne faut pas attendre des résultats, même sur les comptes d'entreprises exposées à la Chine.
Même si c'est sûrement en plus la bonne stratégie, parce que c'est celle qui permet de remettre des bases saines avec... Ils ont les moyens. Ils ont aujourd'hui tous les moyens qu'ils veulent pour prendre relance. Mais s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a une raison, et c'est que justement, ils veulent repartir sur quelque chose de sain, et clairement, avec le temps, normalement, si on voit que tout le reste est surendetté, et à un moment donné, la dette devient insoutenable dans les pays développés, que sont principalement les États-Unis ou l'Europe, ben eux, ils auront peut-être, c'est là où ils seront peut-être les gagnants de demain. Donc, en avoir toujours un petit peu, parce qu'ils peuvent tout faire à tout moment. Ça, c'est très clair.
Ouais, mais je crois qu'ils
ont les moyens de tout faire.
Depuis fin septembre, effectivement, il y a eu un effet surprise majeur quand même, dans le spectre, l'ampleur, la profondeur des annonces. Quand
parce que ça y est, on repart dans une trajectoire qui est très différente. Là, on était dans une trajectoire qui était restrictive, et là, on repart dans une trajectoire constructive. Donc, c'est vraiment deux choses très différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on remet un peu d'Asie et de Chine dans les comptes. Donc, voilà. C'est un petit peu les changements qu'on peut avoir.
On parlait de diversification tout à l'heure. Bah, y a une porte de diversification qui s'ouvre à nouveau pour des investisseurs. Florent, sur la Chine, qu'est-ce que vous en retirez à ce stade ?
J'abonde dans le sens d'Emeric. Alors, moi, j'ai quand même une dissonance cognitive sur la Chine. C'est-à-dire qu'effectivement, les fondamentaux... quand je fais une analyse fondamentale et qualitative, ça reste quand même assez compliqué. Je pense que le plan de relance, il était clairement nécessaire. Est-ce qu'il serait suffisant ? J'en ai aucune idée. On est dans un contexte où l'économie est beaucoup plus manufacturière qu'avant, donc à relancer, c'est plus difficile. Les grandes tendances, la démographie, les barrières douanières, les relocalisations, ça, c'est pas un plan de relance qui va changer tout ça. Maintenant, quand j'analyse les choses d'un point de vue plus... comportemental,
technique. Ouais.
J'ai des très bons signaux, notamment sur le Hang Seng, l'indice tech chinois, où en fait la participation de cet indice-là n'a pas cessé d'augmenter depuis des mois. Il y a des entreprises qui surperformaient non seulement leur indice local, mais aussi les indices mondiaux des semaines avant. En
fait, avant les annonces.
Relance. Et force est de constater que le mouvement, il a été très impulsif et il s'est fait dans un scepticisme qui est absolument massif.
Noir.
Qui continue de perdurer, quand même, j'ai l'impression. Donc là, j'ai un peu tous les ingrédients pour avoir un indice qui, à minima, se stabilise, voire se fait un retournement aussi. Voilà, donc je suis assez d'accord avec la projection.
Et donc, c'est une carte de diversification, alors, pour ceux qui veulent. C'est toujours pareil. Si le client vous dit « je veux pas de Chine », c'est pas la peine d'insister.
Je suis d'accord avec l'approche d'Emeric, c'est-à-dire qu'il faut commencer à remettre un petit peu. Maintenant, je pense pas que ça soit le bon play de jouer des acteurs européens ou américains exposés à la Chine. On le voit ce matin avec les résultats de Philips, là, je veux dire, ils ont blâmé la Chine pendant tout le call. Ça n'empêche pas le titre de perdre entre 15 et 20%. En revanche, je pense que les acteurs qui sont plus locaux...
Quitte à faire de la Chine, autant le faire avec des acteurs chinois. Quoi.
Voilà, de toute façon, il y a une volonté du gouvernement chinois de consommer local. Alibaba est un exemple où, au-delà des thématiques de cloud et de fintech, on peut jouer cet e-commerce chinois qui est très local. Et il faut savoir qu'Alibaba, ça valait $300 sur l'ADR il y a 3 ans, et ça vaut 95, malgré un rebond énorme.
Oui, oui, oui.
Donc ça a été divisé par plus de 3, c'est un free cash flow yield, enfin rendement de trésorerie énorme. Et puis ça a une valorisation, ça se paye 10 fois le BPA, quoi.
Oui, oui.
Donc moi j'en avais avant, donc j'ai souffert avant.
J'entends.
Je veux dire, je profite pas du rebond pour la sortir. Au contraire, là je cherche des portes pour renforcer.
Pour en remettre, Sur la Chine, qu'est-ce que ça peut apporter à la big picture un peu globale macro, selon vous, cher Alexis ?
Je crois que c'est assez en résonnant avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire attention top-down, bottom-up. C'est-à-dire qu'en top-down, c'est sûr...
Ça va être dur.
C'est pas évident. La démographie, le changement de modèle économique très exportateur, où il faut faire quand même un modèle qui est plus équilibré qu'on saute. Et ça, on sait très bien qu'ils sont capables de le faire parce qu'ils ont des vues longues. Par contre, dans un temps boursier, ça peut être très, très, très long à mettre en œuvre et avec des résultats qu'on verra dans sans doute 15-20 ans. Donc, c'est pas évident. Par contre, il n'en reste pas moins, et ça, je suis tout à fait d'accord, que ça n'explique, ça n'exclut pas le fait de, qu'il y a des entreprises qui ont une réussite exceptionnelle et qui sont leaders.
Et qui ne sont pas ininvestissables. Mal, voilà, qui ne sont pas ininvestissables.
Que je vois mal, voilà, que je vois mal comment la capacité des leaders occidentaux à les rattraper, hein, sur la partie électrique, ça va être quand même très, très, très compliqué. Hein. Quoi que vous regardiez, quelle que soit la façon dont vous le regardiez. Hein. Donc, et vous avez la même chose sur la partie fintech, e-commerce. Donc, il y a vraiment des segments où il est bon d'investir. Et le gros avantage que vous avez sur la bourse, c'est que si, malheureusement, il se passe des chocs géopolitiques qui font que ça devient moins investissable, vous pouvez vendre.
Ouais.
Contrairement à quelqu'un qui fait un investissement direct en Chine.
J'entends.
Où là,
j'entends.
Donc je pense que c'est intéressant en carte de diversification, voilà, de façon évidemment mesurée et autre, hein, parce qu'il y a évidemment derrière un risque géopolitique qui là est présent et va rester présent et sans doute va malheureusement avoir tendance à monter. Mais par contre, voilà, c'est intéressant parce que vous avez vraiment des know-how en Chine qui sont extrêmement attractifs et sur lesquels ils ont encore un boulevard.
Ouais. À propos, parlons de tech, mais de tech US, puisque ça va être la semaine de la tech US, là, pour venir valider quoi, les derniers sommets du Nasdaq, c'est ça, Aymeric ?
En théorie, oui. Hein.
Toujours difficile d'être inquiet pour les résultats de Microsoft, quoi, mais bon,
Microsoft,
c'est jamais.
À un moment, ça a été quand même une histoire sans faille, depuis quelques années en tout cas, parce que c'est une société qui s'est réinventée. Alphabet, grosse publication, parce que Alphabet fait quand même l'objet de pas mal de controverses aujourd'hui et pas mal d'histoires autour de la justice américaine et européenne. Ouais. Mais pour le coup, très bonne activité sur aujourd'hui le cloud notamment. Donc là aussi, ça devrait quand même être plutôt positif. On a en tout cas tous les signes pour avoir un Nasdaq qui poursuit sa hausse. Mmh. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de vendre. C'est peut-être justement le dernier petit run qui va nous permettre cette semaine de pouvoir faire les allègements dans les comptes. Parce que encore une fois, on a vu, hein, des ServiceNow qui ont publié, c'était très bon.
Ouais.
Toute cette activité du cloud, toutes ces activités de l'intelligence artificielle, elle nous montre quand même qu'il y a de la demande, que la demande est très forte. On parlait tout à l'heure sur Walmart. Ils utilisent évidemment aujourd'hui ça, c'est un argument. Mmh. On a connu les .com, on a connu pas mal de choses sur des secteurs spécifiques, mais le secteur de la tech et de l'IA aujourd'hui reste pour le moment encore un leader des indices et les dernières publications nous ont montré qu'il y avait encore de la marge pour de la hausse, donc pourquoi pas.
Florent, effectivement, là, entre ASML qui a déçu, mais TSMC le lendemain qui a envoyé un signal très puissant, justement, le signal sur l'IA, il est où aujourd'hui et qu'est-ce qu'il nous dit ?
ASML, justement, c'était marrant d'écouter le CEO d'ASML parce qu'il dit, en fait, il a dit, en fait, sans l'IA, le marché des semi-conducteurs serait triste.
Oui.
Donc, en fait, c'est là où ça a pêché sur ASML, c'est pas sur l'IA, c'est sur la partie industrie, la partie automobile. Et puis, vous savez, ASML, maintenant, la machine fait 300 millions d'euros pièce, donc vous ratez 3-4 machines. Voilà, ça explique.
Deux prises de commande en moins et c'est un écart parfois énorme avec le
Mais par ailleurs, en fait, il y a eu des bons signaux. Aymeric l'a dit, il y a eu SAP qui était bien. TSMC, vous l'avez dit, il y a eu Vertiv, vous savez, Vertiv, c'est les liquides de refroidissement dans les data centers qui a plus bien carré de commande.
Donc pour l'infrastructure IA, on est encore dans une demande
puissante. C'est une thématique qui est bien comprise du marché, mais qui va continuer, parce que de toute façon, les innovations sont encore là. ChatGPT, la dernière version, la 4.0, elle est plus efficace, elle va plus vite, elle a une capacité de raisonnement qui est meilleure encore. Donc, je pense que les investissements vont continuer. Et alors, pour moi, la prochaine vague, et je pense qu'Aymeric sera d'accord avec moi, c'est sur le software. Et comme disait Aymeric, sur la publication de ServiceNow, le taux d'adoption de leur solution IA, ça y est, il commence à prendre vraiment. Il y avait le CEO Bill McDermott qui disait on est passé de la phase d'expérimentation à la phase de sélection d'applications. Voilà, ça y est, c'est en train de se faire. Alors, il faut être sélectif parce que ça va très vite dans ce domaine-là. Il y a des acteurs comme ServiceNow, justement, qui vont plus vite que d'autres. Mais je pense que voilà, il y a la vague d'histoire 2025 pour l'IA. L'infrastructure sera là, mais le software, il y a encore du potentiel.
Puis il y a un peu d'énergie aussi entre les deux, hein. Moi je le dis.
Bah, ça,
souvent.
C'est la thématique de l'infrastructure.
Ah bah ouais, d'accord. C'est dans l'infra. C'est dans l'infra.
Toujours.
Ok. Vistra est la société du S&P 500 qui fait la meilleure performance boursière depuis le 1er janvier. Constellation doit être pas mal non plus. Quand Nvidia nous fait un petit 200% de hausse depuis le 1er janvier. Alors, c'est pas les mêmes tailles de capi. J'ai regardé Vistra, ça doit être 100 fois moins gros que Nvidia.
C'est gros.
Je connaissais pas. Ah bah oui. Je ne connaissais pas Vistra, mais ils font de l'énergie, de l'électricité. Je le raconte tous les jours maintenant, donc d'électricité, notamment nucléaire. Voilà. Pour alimenter les data centers. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché pour démarrer cette semaine. Florent Martini, Trecento Asset Management, Aymeric Didet, Pergam et Pierre-Alexis Dumont, Sycomore Asset Management.